Et le titre qui est donné à cette prédication, c'est Dieu rassemble pour juger et délivrer. Mais auparavant, on va faire quelques rappels sur ce que nous avons vu lors de notre dernière prédication, il y a quelques semaines. Donc, quelques mots sur les prophètes et sur leur contexte. Alors, les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. Ils ont pour mission d'annoncer des messages de la part de Dieu. D'une part à Israël, et en particulier aux institutions d'Israël, lorsqu'elles sont défaillantes, comme la royauté ou la prêtrise, mais aussi à l'ensemble des hommes de tous les temps, comme nous l'avons vu dès le début du livre de Michée, la dernière fois, au verset 2, où il est dit « Terre entière, écoutez ». Deuxièmement, Israël fonctionnait dans le cadre d'une alliance entre Dieu et le peuple. Et ça, c'est fondamental pour bien comprendre toute l'organisation que Dieu a mise en place. Et le peuple, dans ce cadre de cette alliance, s'engageait à obéir à Dieu, et Dieu s'engageait à bénir le peuple. Les rois et les prêtres étaient chacun, à leur manière, des représentants du peuple devant Dieu. Ils avaient donc une responsabilité particulière pour mener le peuple dans le cadre de cette alliance. Mais malheureusement, bien souvent, ils ont échoué et ils ont fait échouer le peuple tout entier. Troisièmement, les prophètes interviennent soit pour annoncer des manquements, lorsque les rois sont défaillants, les prêtres sont défaillants, et pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, soit pour jouer un rôle de soutien du pouvoir, lorsque le pouvoir est fidèle à Dieu, ce qui est quand même arrivé quelquefois, heureusement. Mais par contre, quand le peuple s'éloignait de Dieu, les prophètes intervenaient comme des contre-pouvoirs. Quelques mots maintenant sur les prophéties en général. Ce sont des discours argumentés pour conduire au changement. C'est l'objectif principal des prophéties. Pour susciter la repentance et le retour à Dieu. On peut trouver 5 accents dans les messages des prophètes dans des proportions variées. Premièrement, la dénonciation des fautes, l'annonce d'un châtiment, la promesse d'une délivrance, le rappel de ce qui est Dieu et rappel aussi de sa loi, et enfin un appel à un changement de comportement lié à la repentance. Et voyons donc rapidement le plan du livre du prophète Michée que nous avions déjà vu la dernière fois. Et vous voyez sur ce plan qu'il y a une structure en chiasme. Vous voyez qu'il y a, vous trouvez A et A prime, B et B prime. Et chaque fois, il y a une symétrie dans le message des prophètes. Soit des accusations et des menaces, soit des promesses sur le thème du reste, et cela tout au long de ce livre. Et du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 5, ce que nous avions vu la dernière fois, on est dans le registre des accusations et des menaces. Et dans notre texte d'aujourd'hui, qui commence au chapitre 2, verset 6, on continuera dans le registre des accusations, mais courage, nous aurons quand même l'évocation donc d'une bénédiction, d'une promesse sur le thème du reste, et on verra ce que c'est que le reste. Donc, une petite révision maintenant sur la première prédication, sur le livre lui-même de Michée. Nous avons relevé le fait que ce livre ne concerne pas seulement Israël, parce que au verset 2, comme je l'ai déjà dit, Michée appelle tous les peuples de la terre à écouter. Donc, si on commençait à lire et qu'on s'arrêtait au verset 1, on pourrait dire « bon, ben, ce livre, c'est pas pour nous ». Mais le verset 2 nous recadre tout de suite et nous dit « non, nous aussi, ici, à Moret-Veneux, Loing et Orvan, on est concernés et on doit écouter, on doit être interpellés ». Nous avons ensuite été frappés par une description de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les versets 3 et 4 nous parlent d'un géant. Et cette description nous pousse vraiment à considérer Dieu sérieusement. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. Ses paroles, ses enseignements, les principes de vie qu'il nous enseigne, que ce soit les commandements que nous avons étudiés en début d'année, pour ceux qui étaient présents, que ce soit les principes de vie qu'on appelle principes éthiques, sur l'honnêteté, le respect du mariage, le respect de tous nos engagements, etc. Eh bien, tout cela est important. Et nous avions vu ensuite, quand on poursuit le chapitre 1, au verset 5 à 7, l'objet des accusations de Dieu, qu'est-ce qu'il avait à reprocher au peuple ? Eh bien, c'était de la rébellion, les péchés, de la désobéissance, c'était de l'idolâtrie. Il y avait des hauts lieux, c'est-à-dire des lieux où il y avait des idoles que les gens allaient adorer, il y avait des idoles sculptées, et puis il y avait même de la prostitution sacrée. À l'époque, c'était très à la mode. Aujourd'hui, heureusement, on ne pratique plus à ma connaissance, mais c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et il y avait aussi des gains impurs du trafic d'argent. Et ce sont les premiers commandements de la loi des 10 commandements qui sont transgressés dans tout ce que dit Michée. Mais Michée a ensuite non seulement pointé les péchés, il a aussi pointé les fautifs, les coupables. Et les coupables, ce sont les pays, mais au travers de leurs responsables, à Jérusalem et à Samarie. Et il fait référence donc aux rois et aux dirigeants des deux royaumes qui existaient à l'époque. Et ces dirigeants entraînaient tout le peuple dans le péché et dans l'idolâtrie. Puis, toujours au chapitre 1, il enchaîne Michée avec les punitions. Après avoir mentionné les coupables, après avoir mentionné les péchés, eh bien, quelles sont les punitions ? Les punitions, c'est la destruction, c'est le pillage et c'est finalement l'exil. On avait ensuite fait état des réactions personnelles de Michée face à toute cette situation du peuple, face à l'annonce des punitions. Et Michée était vraiment très, très affecté, très triste, profondément touché dans son être intérieur. Et à la fin de notre texte précédent, au chapitre 2, versets 1 à 5, Michée s'élève aussi contre les injustices sociales. Il accuse la classe dirigeante d'abuser de son pouvoir pour dépouiller les gens du peuple et commettre des actes de violence contre les gens sans défense. Il prenait les maisons, les terrains, il mettait tout le monde dehors. Et il bafouait ainsi les droits les plus élémentaires des plus défavorisés. Et on voit, au verset 4 du chapitre 2, qu'à cause de cela, Dieu transfère à d'autres la propriété du territoire d'Israël, ce qui conduit à l'exil des propriétaires et d'une partie du peuple. Voilà, et ce passage, chapitre 1 toujours, et début du chapitre 2, nous montre, comme bien d'autres livres de la Bible, que Dieu est sensible, bien sûr, au péché, mais sensible aussi, en particulier, à l'injustice sociale. Et on avait donné quelques illustrations comme quoi l'injustice sociale ne concerne pas seulement nos dirigeants, mais ça concerne aussi chacun de nous, quand nous bafouons un peu les règlements, quand on oublie certaines déclarations d'impôts, quand on oublie... je ne rentre pas dans les détails. C'est aussi de l'injustice sociale que les autres doivent payer à notre place. Et on peut donner comme titre maintenant à ce deuxième passage qu'on va voir donc aujourd'hui, donc chapitre 2, versets 6 à 11, et tout à l'heure jusqu'au verset 13, plus tard, on peut donner comme titre « Contre les prophètes de la facilité ». Contre les prophètes de la facilité. Et on va maintenant lire le texte qui va s'afficher. Alors, les prophètes de la facilité, on peut aussi dire les faux prophètes. Chapitre 2, verset 6. « Cessez de délirer. Délire tous ces faux prophètes. On ne peut délirer ainsi. Cela ne détournera pas l'outrage pour autant. Cependant, que dit-on parmi le peuple de Jacob ? L'Éternel aurait-il perdu patience? Est-ce bien là sa manière d'agir? Certes, pour ceux dont la conduite est pleine de droiture, mes paroles sont bienveillantes. Mais hier encore, on a traité mon peuple en ennemi. Vous ôtez le manteau de dessus la tunique à ceux qui sont sans défiance, passent auprès de vous au retour du combat. Verset 9. Vous expulsez des maisons qu'elles aiment les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours le glorieux patrimoine que je leur ai donné. Verset 10. Debout, allez-vous-en, car ce pays n'est plus un lieu paisible parce qu'il est souillé et il sera la cause d'une terrible destruction, d'une destruction violente. Car si un homme vient qui court après le vent, qui profère des mensonges et qui dit « Oui, pour toi je vais délirer, distiller du bon vin, des boissons enivrantes », cet homme-là devient le distillateur de délire pour tout ce peuple. Donc le verset 6, « Cessez de délirer, délire tous ces faux prophètes, on ne peut délirer ainsi, cela ne détournera pas l'outrage pour autant. » De l'avis général des commentateurs, ce passage des versets 6 à 8 ne sont pas très faciles à comprendre. En fait, Michée réagit face aux faux prophètes qui existaient déjà bien de son temps et qui veulent le faire taire. En effet, les faux prophètes ont peur des annonces de Michée concernant la destruction et le pillage des richesses. Et ils ont peur que finalement l'exil lointain ne provoque une révolte parmi les opprimés du peuple. Et Michée dit aux faux prophètes, « Quelles que soient vos réactions, quoi que vous déliriez ou déblatériez ou râliez ou protestiez, c'est le langage qui est dans ce texte, hein, le délire, eh bien, les paroles que moi, Michée, j'ai prononcées de la part du Seigneur, elles s'appliqueront de manière certaine. » Voilà ce que dit Michée. Vous, vous délirez, mais les paroles de l'Éternel s'appliqueront de manière certaine. Le verset 7 poursuit. Cependant, que dit-on parmi le peuple de Jacob? L'Éternel aurait-il perdu patience? Est-ce bien là sa manière d'agir? Certes, pour ceux dont la conduite est pleine de droiture, mes paroles sont bienveillantes. La première partie du verset peut être attribuée aux faux prophètes qui sont au sein du peuple de Jacob. Ils essayent de contredire les annonces prophétiques de Michée, qui sont des annonces dures et qui peuvent faire peur. Le pillage, en particulier l'exil, on n'aime pas entendre ça. Eh bien, les faux prophètes disent, ben non, cela ne ressemble pas à notre Dieu, c'est pas possible, Dieu il est amour, hein, il ne peut pas faire cela. Et dans la deuxième partie du verset, c'est Michée qui répond en disant, eh bien, il répond de manière un peu ironique et il joue le jeu des faux prophètes en disant que Dieu est effectivement bienveillant. Mais oui, Dieu est bienveillant, mais uniquement pour ceux dont la conduite est pleine de droiture et pas pour les faux prophètes qui font n'importe quoi. Ce qui est évidemment pas le cas des faux prophètes, hein, et c'est donc bien le châtiment annoncé par Michée qui les attend. On poursuit le verset 8. « Mais hier encore, on a traité mon peuple en ennemi. Vous ôtez le manteau du dessus, la tunique, à ceux qui sont sans défiance, qui passent et vous passez en passant auprès de vous au retour du combat. » Michée souligne là le manque de respect des dirigeants pour les combattants du peuple. Ce verset prolonge et appuie ce que nous avions vu au début du chapitre 2, quand Michée accusait les méchants de piller, d'enlever les terrains, etc. Là, ils enlèvent les tuniques et ils manquent de respect pour les combattants qui reviennent au pays. Donc, Michée accuse les méchants riches d'opprimer encore et de dépouiller le peuple en leur volant leurs terres et leurs maisons et leurs manteaux. Verset 9. « Vous expulsez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours le glorieux patrimoine que je leur ai donné. » Michée reproche ici la violation des lois, des droits coutumiers les plus sacrés, le droit patrimonial des veuves et de leurs enfants. À elles qui n'ont déjà pas beaucoup, on arrache encore ce qui leur reste, à savoir leurs enfants. En résumé, à ceux qui accusent Michée d'être faux prophète, Michée répond en insistant sur la mauvaise conduite de ses détracteurs et en répétant sa prédiction d'un châtiment. Et au verset 10, il dit « Debout, allez-vous-en, car ce pays n'est plus un lieu paisible, parce qu'il est souillé et il sera la cause d'une terrible destruction, d'une destruction violente. » Avec ce verset 10, c'est la sentence de Dieu qui est prononcée à travers de la bouche de Michée. Le peuple sera détruit. Il y aura une destruction, et même une destruction violente, dit le texte. C'est pas de la rigolade. La souillure dont il est question ici n'est pas seulement la souillure rituelle, mais c'est aussi la souillure entraînée par la gestion non équitable du pays. L'injustice sociale dénoncée par Michée est autant une offense à Dieu que l'impureté rituelle que l'on a évoquée avec la prostitution sacrée, etc. Et elle amènera inéluctablement le peuple à la destruction. L'Ancien Testament ne dissocie pas le sacré du profane. Et c'est aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. Ce qui se passe dans la semaine est aussi important aux yeux de Dieu que ce qui se passe le dimanche au culte. Pas de double vie possible avec le Seigneur. Et on enchaîne avec le verset 11. « Car si un homme vient, qui court après le vent, qui profère des mensonges et qui dit « Oui, pour toi, je vais délirer, distiller du bon vin, des boissons enivrantes », cet homme-là devient le distillateur de délire pour tout le peuple. » En hébreu, c'est le même terme qui désigne tantôt le vent, tantôt l'esprit. Et contrairement au vrai prophète qui est animé par l'esprit, eh bien, les faux prophètes, eux, courent après le vent. Et les paroles agréables que délivrent les faux prophètes sont comme du bon vin et des boissons enivrantes qu'ils distillent pour leurs auditeurs et pour leur perte aussi au passage. Mais nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. Et on va poursuivre avec le bon côté de ce passage, les versets 12 et 13, le Dieu qui rassemble. Donc là, on l'a pas lu jusqu'à présent, donc écoutez bien. Descendant de Jacob, je vous rassemblerai. Oui, Jacob tout entier, je vais réunir les restes d'Israël. L'Éternel le déclare. Je les ferai venir ensemble comme un troupeau d'agneaux dans un enclos. Ils seront comme des brebis au milieu de leur pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Verset 13. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Voilà les paroles concernant le fameux reste dont j'ai parlé au début. Comme l'a aussi fait le prophète Osée, ailleurs dans les petits prophètes, dans la Bible, Michée annonce clairement la réunification du peuple de Dieu. Vous savez qu'il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud, suite à des conflits. Et voilà, donc là, maintenant, on parle d'une réunification. Le premier retour de balancier dans notre séquence accusation-bénédiction du diagramme du livre que l'on a vu. C'est le premier retour positif. Donc, qui nous parle de la réunion de Jacob tout entier, c'est-à-dire donc des Israélites du Nord et ceux du Sud. Mais que veut dire les restes d'Israël, au fond? Le thème du reste, c'est un thème important du livre du prophète Michée, mais aussi d'autres livres prophétiques comme celui d'Ésaïe et d'autres encore certainement. Il souligne la grâce de l'Éternel envers son peuple qui n'anéantit pas entièrement, lui laissant espérer un avenir. C'est seulement cette libre décision de l'Éternel qui explique que Juda, le royaume du Sud en particulier, ne soit pas complètement mort, qu'il n'est pas complètement péri. Et je pense que nous avons là l'expression de ce qui se passe dans le cœur de Dieu. On est humain, on est un peu prétentieux de vouloir savoir ce qui se passe dans le cœur de Dieu, mais sa parole nous permet d'avoir quelques idées. Et en particulier, on voit que Dieu est révolté par tout ce que nous avons vu qui ne va pas au travers du peuple, au sein du peuple, au sein de ses dirigeants, que ce soit l'idolâtrie, les prophètes corrompus, les injustices sociales, l'exploitation des plus faibles, et qui va conduire tout cela à des corrections sévères, un exil massif et des destructions. Donc Dieu, c'est ce Dieu-là qui est révolté. Mais en même temps, on voit l'amour de Dieu pour son peuple qui déborde. C'est comme s'il n'arrivait pas à le contenir. Et cet amour pour son peuple qui transparaît au milieu, et c'est cet amour pour son peuple qui transparaît au niveau des fameux restes de notre texte. Dieu ne supporte pas le péché. Il faut donc que quelqu'un paye, mais en même temps, Dieu ne peut pas étouffer son amour pour son peuple. Il veut sauver le reste. Mais en quoi sommes-nous concernés, nous? Eh bien, clairement, ces versets 12 et 13, ils s'appliquent d'abord au peuple juif de l'époque. C'est un roi qui marchera devant eux, dit verset 13, et le « eux », eh bien, c'était un troupeau d'agneaux qui s'identifie, disons, aux gens d'Israël qui sont quand même restés un petit peu fidèles, qui ne se sont pas complètement détournés. Et comme certains commentateurs pensent que ce texte prophétique peut aussi se réaliser historiquement, a pu se réaliser historiquement, avec la délivrance, si vous étudiez un petit peu l'Ancien Testament, Dieu a délivré le peuple en 701 avant Jésus-Christ, alors que les armées assyriennes assiégeaient Jérusalem. Donc c'était une première délivrance, il y a eu une première brèche qui s'est passée à ce moment-là. Et donc le peuple a pu sortir librement, un peu comme ces agneaux. Mais on peut aussi voir dans le passage un autre retour, le retour d'exil de Babylone en 538 avant Jésus-Christ, donc un certain nombre d'années plus tard. On voit ça dans 2 Chroniques 36, dans Esdras, etc., au moment de la reconstruction du temple, pour ceux qui se souviennent aussi du livre de Néhémie. Mais le roi berger, annoncé ici au verset 13, apparaît clairement comme le Messie, dont il sera question plus loin, en particulier au chapitre 5. Et peut-être que, je ne sais pas vous, mais longtemps, un des seuls éléments que je retenais du livre de Michée, c'était l'annonce du lieu de la naissance de Jésus. Michée chapitre 5, verset 1, je crois, où on annonce Jésus naîtra à Bethléem. Hein. Déjà, là, avec cette brèche, avec ce berger qui sort, eh bien, il y a l'identification du Messie. Jésus s'est appliqué lui-même ce texte en se présentant à la fois comme le bon berger et comme la porte des brebis. On voit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Verset 1 à 16. On peut donc considérer que c'est lors de l'épisode de la crucifixion à la croix que Jésus a ouvert la brèche qui a permis pour son peuple le pardon des péchés et l'accès au vert pâturage, c'est-à-dire à une vie abondante et véritable. Et ce thème du rassemblement du troupeau du verset 12 se trouve aussi dans l'évangile de Jean, verset 16, où Jésus, allant au-delà de ce que dit Michée, inclut aussi les non-juifs parmi les brebis incorporées au troupeau. Et Michée le dira lui-même aussi, « plus loin au chapitre 4. Et certains pensent que la foule humaine en tumulte évoquée à la fin du verset 12, le verset, je ne sais pas si tu peux revenir, c'est pas grave, à la fin du verset 12, où on voit qu'il y avait une foule bruyante qui accompagnait le troupeau, et certains pensent que c'est l'évocation, de nous, les chrétiens non-juifs, d'origine non-juive, les chrétiens du monde entier qui rejoignent le troupeau. Et c'est donc une très, très bonne nouvelle pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus est le bon berger, le sauveur, le roi qui marche devant ses enfants. Nous sommes appelés, invités à venir dans ce troupeau, à suivre celui qui a fait cette brèche, qui a ouvert cette porte étroite mentionnée dans le texte. Et la question que je pose à chacun ce matin, c'est: où en es-tu aujourd'hui ? Es-tu dans le troupeau des agneaux de Jésus-Christ ? Es-tu dans le troupeau des agneaux de Jésus-Christ ? Si ce n'est pas encore une réalité pour toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Viens à lui, ne tarde pas. Et pour s'opposer aux faux prophètes qui refusaient l'idée d'un jugement, Michée souligne que le salut ne viendra qu'après le châtiment, qu'après l'exil, qu'après la destruction. Et il viendra pour un reste seulement du peuple, celui qui acceptera de marcher derrière l'Éternel et derrière le roi choisi par Dieu, c'est-à-dire derrière Jésus-Christ. Donc soyons donc vigilants. Ne nous laissons pas entraîner par des faux prophètes d'aujourd'hui qui déforment le vrai message de l'Évangile en essayant de nous détourner de cette vérité. On peut parler par exemple de ces faux prophètes adeptes de l'Évangile dit de la prospérité qui occupent parfois le terrain dans certains écrits et aussi sur nos écrans de télévision, dans certaines réunions publiques, et qui nous font miroiter richesse, santé, bonheur, à condition de passer un peu à la caisse aussi, et sans se soumettre forcément à Jésus-Christ. On peut aussi parler de ceux qui prêchent le salut obtenu avec l'aide de nos propres mérites, par nos bonnes œuvres, au lieu de se baser sur le seul sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. On peut aussi parler de ces faux prophètes qui dénigrent la nécessité de la repentance dans le processus du salut en Jésus-Christ. Ils mettent en avant les bienfaits du pardon et ils mettent en avant l'amour de Dieu. Oui, c'est une réalité. Mais ils ne mentionnent pas la nécessité de passer par la case de la repentance. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais abandonner. Le vrai pardon de Dieu passe par une vraie repentance de notre part. Pour ceux qui en douteraient, je vous invite à lire, on ne va pas le faire maintenant, mais ça serait pourtant intéressant, je vous invite à lire le psaume 51, qui est la repentance du roi David après qu'il eut péché avec sa voisine Bathsheba. Il a été non seulement adultère, mais criminel, puisque son mari de Bathsheba aussi est mort, il a été détruit. Eh bien, on voit dans le psaume 51 une réelle repentance. Et tous ceux qui rejetteraient cette nécessité de la repentance pour accéder au salut en Jésus-Christ font complètement erreur. Ce sont des faux prophètes. Et ne vous contentez pas d'entendre parler de l'amour de Dieu sans avoir l'exhortation aussi de passer par la case de la repentance. Et c'est ce que je voulais souligner ce matin comme base clé de cette prédication. Que chacun soit clair sur cette question, et si vous aviez des interrogations, vous pouvez venir voir le pasteur ou un ancien pour approfondir cette question. Prions. Seigneur, on veut te bénir parce que dès l'Ancien Testament, tu as été parfaitement clair avec le salut. Tu as été parfaitement clair aussi vis-à-vis du péché, et nous voyons que nous ne pouvons pas vivre en cultivant le péché dans nos vies. Seigneur, tu nous exhortes à la repentance, tu nous exhortes au pardon, tu nous exhortes à l'amour, mais il faut passer par la repentance. Seigneur, nous voulons nous cultiver cette attitude de repentance dans nos vies et ne pas laisser telle ou telle pseudo-doctrine venir masquer cette nécessité de la repentance. Je te remets chacun dans cette salle ce matin, que tu sois en bénédiction pour chacun, que tu nous gardes et que tu nous conduises durant aussi toute cette semaine qui est devant nous. Au nom de Jésus. Amen.